Radio Prague, les informations.
Le roi du Cambodge arrive pour un séjour d'une semaine à Prague. Pour Václav Klaus, la période après la signature du traité de Lisbonne est celle de la plus profonde crise de l'Union européenne. Exposition de photos Prague pour Haïti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, effectue une visite privée d'une semaine en République tchèque. Jeudi, il sera reçu au château de Prague par le président Václav Klaus. La rencontre renouera avec celle qu'ils ont eue en 2006 et au cours de laquelle ils étaient question d'intensification des rapports tchéco-cambodgiens. Le roi du Cambodge est connu pour ses attaches à Prague où il a fait ses études du ballet entre 1962 et 1975. Parlant d'un Tchèque parfait, il a souvent qualifié la Tchéquie de sa seconde patrie. Au cours de la présente visite, Norodom Sihamoni recevra le titre de docteur honoris causa de l'Académie des Beaux-Arts et la municipalité de Prague lui accordera la citoyenneté d'honneur. La période après l'adoption du traité de Lisbonne est celle de la plus profonde crise à laquelle l'Union européenne fait face dans son histoire. Ses propos sont ceux du président Václav Klaus. Le chef d'État eurosceptique l'a écrit dans un message adressé aux délégués du Congrès du Parti des citoyens libres dont il se sent proche par ses opinions. Ce parti, de même que le président, critique le traité de Lisbonne réformant les institutions de l'Europe élargie. La majorité des Tchèques estiment n'avoir aucune possibilité d'intervenir dans la solution des problèmes du pays. C'est ce qui ressort d'un sondage effectué par l'Institut CVVM. La majorité des Tchèques sont également très sceptiques sur la question demandant si et dans quelle mesure l'opinion publique peut influencer le travail du gouvernement. Un peu plus optimistes dans leur réponse sont des diplômés d'études supérieures et des citoyens penchant vers une tendance politique de droite. Prague pour Haïti est le titre d'une exposition de photographie inaugurée samedi à Miami en Floride. Sur leurs photos, les étudiants de l'école pragoise de création publicitaire saisissent l'atmosphère de Prague sous la neige. Cette initiative est née peu après le séisme dévastateur qui avait frappé Haïti le 12 janvier. Les recettes des photos vendues seront reversées au profit des étudiants haïtiens. L'acteur belge Jean-Claude Van Damme présidera le jury de la prochaine Miss Tchéquie 2010, dont la finale aura lieu samedi 20 mars dans la capitale tchèque. Aussi réalisateur et producteur, l'ancien karatéka qui s'est rendu célèbre dans ses films d'arts martiaux entend profiter de son passage à Prague pour trouver une actrice pour son nouveau film. Dans un passé récent, Alain Delon avait également présidé le jury de Miss Tchéquie. Un ciel couvert avec des averses locales marque la météo dimanche, jour de la fête des routes Mathilda. Les températures oscillent entre 1 à 5 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague présentées par Jarka Gisublova. On se retrouvera dans un quart d'heure pour la rubrique touristique. Ah !
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'au 30 avril, l'Institut français de Prague propose une exposition photo intitulée « Le rire et l'oubli ». Présentée pour la première fois lors du Forum 2000 à l'automne dernier et à l'occasion des 20 ans de la chute du communisme, cette exposition fait partie d'un projet intitulé LAF, initié par des photographes tchèques. Parmi les photographes participant au projet, le français Philippe Delot, qui après une dizaine d'années passées à New York, s'est établi à Prague il y a un an. C'est lui qui nous présente l'exposition et qui évoque le projet LAF.
Alors, LAF, en fait, c'est une sur une idée de Anna Jarklova, qui est une photographe tchèque, a eu l'idée de, en fait, de monter pour célébrer les 20 ans de la démocratie en République tchèque, l'idée de rassembler, d'inviter des photographes à venir photographier la République tchèque de maintenant. Donc, c'est une exposition de photographes venus du monde entier, et qui sont venus passer quelques jours, faire des reportages dans divers coins de la République tchèque.
Mais il y a aussi des photographes tchèques.
Et il y a, en fait, évidemment, beaucoup de photographes tchèques. Certains plus connus que d'autres. Enfin, tout le monde a un petit peu participé.
LAF, ça veut dire quoi?
Alors, LAF, c'est le Love and Forgetting, c'est le rire et l'oubli. C'est donc inspiré par le livre de Milan Kundera, qui est un petit peu symbolise un petit peu l'esprit de ce projet.
Alors, c'est des photographes à la fois confirmés ou aussi des photographes amateurs?
Non, ce sont des photographes professionnels, a priori de différents domaines. Certains sont évidemment plus connus que d'autres. Alors, j'excuse mon ignorance de la photographie tchèque, hélas. Mais par contre, je sais que nous avons quand même un Jorgim Pinkasov, qui est donc un très grand photographe de Magnum, qui a accepté de participer au projet. Bon, Anna Yarklova, elle aussi est une photographe établie. Elle a déjà publié un livre qui est assez important sur à Prague.
Par exemple, on trouve Jan Chibik. Alors voilà. Jan Chibik, c'est un des photographes du magazine Reflex qui couvre notamment de nombreux conflits à travers le monde. Voilà, on a aussi Jindřich Streit, qui est un photographe très connu en République tchèque. D'ailleurs, Radio Prague en a déjà parlé plusieurs fois. C'est lui qui a notamment énormément photographié la campagne tchèque pendant toutes les années du communisme. Il a un peu sillonné la campagne et photographié la vie là-bas. Dana Kendrova, que nos auditeurs connaissent aussi, puisqu'elle est d'une part francophone, d'autre part elle a beaucoup photographié en Afrique et dans le Maghreb, et également pris des photos pendant l'invasion en 1968, et a organisé récemment d'ailleurs une exposition sur Jan Palach et les manifestations en sa faveur après sa mort. Et Martin Collage, alors qui est beaucoup ces temps-ci, ses photos apparaissent souvent dans Le Monde 2, voilà, qui vient de Slovaquie pour le coup.
Et alors il y a donc l'intérêt aussi du projet qui pourrait être sa faiblesse, mais qui arrive à bien s'installer, c'est que il y a énormément de styles, il y a 30 photographes avec des styles complètement différents. Certains sont plus photojournalistiques que d'autres au niveau de leur regard photographique. Moi, je sais que je suis plutôt attiré par des travaux d'auteurs plus intimes. Il y a un travail que je trouve extraordinaire par Jakub Skokan, si je le prononce correctement. Il a fait un travail extraordinaire sur... Il a suivi un petit garçon aveugle, et c'est un travail qui est très éthérique au niveau du regard. Moi, j'aime beaucoup ce travail-là. D'autres sont juste restés quelques jours, malheureusement, et n'ont pas forcément pu produire une œuvre, on va dire, majeure. Ça pourrait être éventuellement la faiblesse du projet, c'est que ce sont pas des travaux... Sur plusieurs mois, ce sont des fois juste quelques jours. Par exemple, Pinkasov a fait des photos exclusivement pour le projet, mais il n'est pas resté très longtemps, il est resté quelques jours seulement. Et donc, ce sont des photos un petit peu parallèles par rapport à son travail habituel. Donc ça donne un intérêt aussi au projet, ce sont des photos exclusives en fait.
Alors vous-même, évidemment, vous avez également participé à ce projet, vous avez fait vos propres photos, vous le disiez. Comment est-ce que vous êtes déjà arrivé dans ce projet, tout simplement?
Alors moi, je suis un petit peu une pièce rapportée dans le projet, c'est-à-dire que je connais Anna depuis quelques années, on se croise régulièrement dans les festivals photos. Quand je lui ai annoncé que je venais m'installer à Prague, on a évidemment décidé de garder contact. Et en fait, elle m'a parlé du projet Arles l'année dernière, juste quelques mois avant la réalisation. Et moi, je venais de m'installer donc quelques mois auparavant, et je travaille sur Prague depuis... j'avais travaillé en tout cas déjà pendant 5 mois de façon très active dans les rues de Prague. Donc je lui ai proposé directement les piocher dans une sélection déjà faite. Ce qui m'a permis donc de présenter un travail qui pour moi tenait la route, parce que qui n'aurait peut-être été de moins bonne qualité, disons, si j'avais passé 3 jours sur un sujet quelque part. Et elle a accepté un petit écart, c'est-à-dire que normalement j'aurais dû aller photographier quelque part dans la République tchèque pendant quelques jours, et moi j'ai une petite dérogation, et ce qui m'a permis de montrer en fait aussi pour la première fois mes premières photos tchèques.
On peut regarder ensemble. Alors les vôtres s'appellent Errance Pragoise avec Kafka, si on traduit en français.
Alors non, pas du tout. C'est une erreur.
D'accord.
Kafka, c'est le gros danger parce que il y a à peu près entre 100 et 150% des photographes français, quand ils arrivent à Prague, ils travaillent, ils font quelque chose sur Kafka. Alors je voulais à tout prix éviter d'être associé avec la thématique de Kafka qui est quand même dangereuse ici, parce que Kafka c'est un des plus grands écrivains, mais c'est aussi un peu Mickey Mouse ici. On peut acheter les t-shirts Kafka, les tasses Kafka. C'est un petit peu voilà, ça me rappelait quand j'avais voyagé dans l'Arizona, où vous arrivez à Monument Valley, vous pouvez acheter la salière et la poivrière de John Wayne. Et ou même le papier toilette de John Wayne. Alors là,
surtout ne pas être associé, et résultat, vous êtes associé à Kafka.
Et je me suis retrouvé, mais le titre va être changé. Le vrai titre, c'est, en fait, ça s'appelle Prague ou le deuil inachevé. Ça, c'est le nom du projet, de toutes les photos. Donc c'est un extrait de ce projet.
Vous pouvez nous le présenter un petit peu? Alors, à la radio, je sais que c'est un peu difficile de décrire des photos. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu essayer de décrire votre démarche, en tout cas, ou la manière dont vous avez, du coup, appréhendé Prague?
Prague, c'était un mystère en arrivant. Donc, au début, j'avais essayé de me documenter. Et c'est assez difficile d'avoir, en fait, des documentations, je dirais, fortes, surtout depuis les États-Unis. Sur la République tchèque, il y en a, mais elles sont souvent tchèques, en tout cas sur Internet. Et donc, du coup, j'ai décidé de jouer à l'opposé, c'est d'arriver de travailler d'une façon complètement naïve, en écoutant plus l'instinct et en m'étant écouté ce que je ressentais dans la rue. Une chose qui m'a assez vite marqué, c'est qu'il y a une présence de la mort d'un espèce de souvenir de la mort qui est très forte en République tchèque, enfin, en tout cas à Prague. Et en même temps, c'est pas un côté mortuaire morbide, au contraire, c'est un petit peu la mort comme compagnon de la vie, compagnon indispensable de la vie, et la mort dans sa vitalité aussi, qui est cette espèce d'énergie qu'ont par exemple les personnes quand ils décèdent, il y a une énergie incroyable. Donc c'est une image qui est par rapport à l'Occident, par rapport aux visions, à l'interprétation judéo-chrétienne, qui a rien à voir. Je trouve qu'ici, la mort, en même temps, est célébrée comme une source vitale. En même temps, elle est très présente.
En quoi ?
Dans des petits détails que moi, j'associe peut-être naïvement à un passé qui est quand même assez douloureux. Moi, ce qui m'a fortement impressionné, c'est que, en fait, bon, ce pays a subi des attaques, de pays étrangers pendant toute son histoire. En 1918, Thomas Garing Masaryk crée une république qui est en avance sur tout le monde, je dirais. C'est créer un système qui est moderne, en fait. 20 ans après, le même âge que maintenant la république actuellement, les nazis arrivent et on rentre dans une violence, une douleur, extrême, et tout est détruit, tout cet espoir, toute cette chose. Donc il y a une nostalgie de cette époque que je sens partout. On sent qu'en même temps que la violence et des Allemands a été telle que maintenant on trouve partout des livres, des disques, des énormément de choses sur la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une espèce comme si on voulait garder cette mémoire intacte, parce que il y a eu tellement de souffrance qu'il faut le garder. On peut pas oublier ça. Et c'est fait d'une manière très discrète, a priori pas palpable. Et pour moi, c'est ça qui m'a touché.
Vous qui avez un peu une vision d'ensemble quand même de tous les travaux qui ont été faits, vous disiez en effet, tout le monde a un peu travaillé de manière différente, à la fois photo, ça peut être plus photojournalisme, plus artistique, voilà, ou esthétisant. Qu'est-ce qui court à travers ces photos, finalement, de commun, peut-être ?
Commun, je ne sais pas, en fait, parce que c'est... Je ne vais pas dire que ça part dans tous les sens, mais il y a vraiment un petit peu de tous les... Je pense que, justement, la chose commune, c'est une espèce de... C'est le fait que ça part dans tous les sens, un peu comme une ville ou un pays va proposer une énorme variété, comme ça, dans la rue. C'est un petit peu comme dans les rues de New York, vous allez croiser... Tout type des gens de toutes les cultures, et tout d'un coup tout le monde se croise et personne n'a vraiment il y a rien de commun, mais en même temps il y a une tenue générale du projet.
Pour reformuler peut-être ma question ou le dire différemment, est-ce que ces photos nous disent sur Prague et sur la République tchèque 20 ans après le renouveau de la démocratie?
Moi, j'y vois une énorme interrogation quand même sur le futur. Il y a une forme, je dirais pas d'inquiétude, mais il y a quelque chose d'un petit peu imprécis. On n'est pas dans une démarche, et je crois que c'est un petit peu quand même la situation mondiale. Il y a eu un changement énorme il y a 20 ans dans ce pays, et on bascule dans un nouveau système dit capitaliste, et on ne sait pas trop en fait où on va, et j'ai l'impression que c'est un petit peu partout comme pareil dans le monde, on ne sait pas trop où ça va. Tout ce qu'on sait, c'est que tout va très vite et qu'on ne maîtrise plus grand-chose, et on ne sait pas trop et l'avenir est plein en fait d'inquiétude, et en même temps d'espoir, mais il y a quelque chose d'un petit peu, c'est pas résigné, mais on attend un petit peu de voir ce qui se passe. On n'est pas dans les, comme dans les années 20, avec une,
avec un enthousiasme.
Un enthousiasme qui part dans des directions avec des mouvements politiques qui brassent, ramènent, ce qui est pas, peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce que, vu ce que ça a donné.
L'optimisme béat, ça donne pas forcément, voilà. Grand chose.
Et moi, ce que j'aime dans cette espèce de, je trouve pas les mots, mais de nos futurs, comme ça, et c'est le nos futurs des punks dans les années 80, c'est qu'il y a un rapprochement quelque part aussi au niveau humain, au niveau individuel des gens. Il se passe, et ici c'est très, je trouve que c'est très fort à Prague, il y a une gentillesse et une forme d'attention et de curiosité qui est très discrète en même temps. C'est ce que j'aime beaucoup ici d'ailleurs.
C'était le photographe français Philippe Delot qui nous présentait l'exposition photo Le rire et l'oubli. Cette exposition est à voir à l'Institut français de Prague jusqu'au 30 avril. Retrouvez cette interview évidemment sur notre site internet www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc, Jarka Gisubelova.
Dans la série de balades présentant les monuments qui viennent d'être inscrits sur la liste du patrimoine culturel national, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur l'église du Sacré-Cœur de Jésus, une dominante incontournable de la place Georges de Poděbrady dans le deuxième arrondissement pragois de Vinohrady. L'église du Sacré-Cœur de Jésus est une construction unique en son genre. Le bâtiment en briques, érigé entre 1928 et 1932, se réfère au temple grec antique pour être en même temps un rare exemple d'architecture religieuse moderne dans notre pays. Cette église représente la principale réalisation pragoise de l'architecte slovène Josip Plečnik, qui a été chargé de la rénovation du château de Prague par le président Masaryk. Partisan de l'architecture classique, Plečnik a créé un style très personnel, montage d'éléments classiques et moderne avec des emprunts à l'architecture méditerranéenne qui a trouvé sa pleine expression dans la conception architecturale de l'église du Sacré-Cœur. Une église sans transept, dominée par une large tour principale dotée de six cloches et d'une fenêtre ronde abritant la plus grande horloge de Prague. Les travaux de construction de cette église se sont déroulés parallèlement à ceux de l'église de Saint-François à Ljubljana, ville où Plečnik est né et où il est mort le 7 janvier 1957. L'abbé Jiřislav est depuis plus de 20 ans le curé du Sacré-Cœur de Jésus.
Plečnik, un homme de foi profondément croyant, a créé une œuvre profondément spirituelle. La spiritualité émane de l'ensemble de la masse du bâtiment. Lorsqu'on pénètre à l'intérieur, on ressent clairement que le monde matériel et spirituel y sont liés, et c'est cette union qui fait le charme de cette église.
Le faubourg résidentiel de Vinohrady, qui a reçu son nom d'après la culture de vigne, a défendu son statut de ville autonome jusqu'à la démolition des remparts municipaux. En 1922, Vinohrady a été annexé à la Grande Prague, et c'est alors que le besoin d'une nouvelle paroisse a surgi. Un appel d'offres pour la construction d'une église est toutefois resté sans vainqueur, observe l'historien de l'architecture Zdeněk Lukeš.
L'appel s'est terminé par un résultat nul. Il n'empêche que tous ses participants, tout comme le jury, étaient d'accord pour soutenir le projet de Plečnik, une situation absolument impensable aujourd'hui. Plečnik a dessiné plusieurs variantes de la future église. Sa construction était limitée par les moyens financiers ainsi que par le problème des fondations. Finalement, Plečnik a opté pour une tour surbaissée. Il n'en reste pas moins que c'est une œuvre unique et moderne en fer et en béton, mais qui puise son origine dans une basilique paléo-chrétienne.
Toute une série de motifs utilisés par Plečnik pour la décoration de sa construction s'inspire des symboles des rois, du fait aussi que l'église se trouve dans le quartier appelé autrefois Královské Vinohrady, Vinohrady royale. Zdeněk Lukeš attire notre attention sur quelques-uns de ces motifs.
Proto třeba ty vystupující cihly z líce zdiva, které vlastně...
Par exemple, des briques saillantes peuvent symboliser un manteau d'hermine que portaient des rois ou encore le globe impérial qui coiffe la tour principale.
Les liens qui unissent l'église du Sacré-Cœur, le château de Prague, dont Plečnik était le premier architecte dans les années 1920-1930, sont mis en avant par Zdeněk Lukeš.
Le premier lien se trouve sous la terre dans la crypte de l'église où Plečnik a créé une chapelle souterraine, considérée par les architectes contemporains comme l'espace le plus spirituel de Plečnik. La paroi de l'autel dans cette chapelle est faite des fragments provenant de la cathédrale Saint-Guy dans le château de Prague. L'autre lien est un lien visuel. Lorsque vous regardez du haut de la rampe qui mène vers la tour principale, vous voyez au travers du cadran et de la grande fenêtre ronde le panorama du château de Prague.
Les plans de Plečnik prévoyant un remaniement de la place Georges de Poděbrady sont restés inachevés, ainsi que certains éléments de l'église réalisés plus tard par son disciple Otto Rothmayer. Le sculpteur Bedřich Stefan est quant à lui l'auteur des plastiques sur le portique. Après avoir réalisé cette église inspirée de l'architecture grecque classique, Plečnik a fait face à une critique nationaliste croissante de ses opposants. Masaryk malade, ne pouvant plus prendre sa défense, il a quitté son travail sans accepter, dit-on, d'honoraire. C'est du moins ce que souligne aussi l'abbé Slaby en parlant de l'église du Sacré-Cœur.
Je trouve très beau le fait que Plečnik ait consacré toute cette œuvre à l'enfant Jésus à Bethléem, sans accepter une couronne, ce qui pourrait paraître incroyable aujourd'hui. Nous avons ses plans dans lesquels il avait tout prévu jusqu'au moindre détail, comme des poignées de porte ou des manivelles de vitres, tout ce que nous y admirons. Plečnik exigeait un travail parfait. Il choisissait un matériel de la plus haute qualité qui porte l'empreinte de son génie.
Pendant longtemps, l'œuvre de Josip Plečnik est restée sous-estimée. Les Tchèques l'ont redécouvert dans les années 1990 grâce à une exposition rétrospective de son œuvre à l'initiative de Václav Havel et présentant alors l'ensemble de ses réalisations à Prague et aussi à Lani, résidence secondaire des présidents tchèques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté en notre compagnie. Passez une très bonne semaine et à très bientôt sur Radio Prague.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, transmitimos para España por los 11.600 kHz. A las 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930 y los 7.420 kHz, esta última frecuencia a través de la repetidora en la isla Ascensión. A las 01.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 7.345 kHz.